Bonjour à tous, c'est le retour pour une saison 2 du podcast Moutus et Bouche décousue où je vous propose des sujets variés sur l'enfance, l'adolescence, les parents et la santé mentale. Bonne écoute à vous et bonne saison. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Moutus et Bouche décousue. Aujourd'hui, nous abordons un sujet très délicat mais important à discuter lorsqu'il s'agit de l'enfance, c'est la question du trauma complexe. Qu'est-ce que le trauma? Qu'est-ce qu'il implique? Comment le reconnaître? Et quelles sont éventuellement les pistes d'intervention que nous pouvons proposer? Tout d'abord, qu'est-ce que le trauma au sens large du terme? Si on reprend une définition de l'American Psychological Association, le traumatisme est défini comme un événement de vie adverse qui provoque une réaction physique et psychologique extrême et dont plusieurs personnes vont avoir du mal à surpasser. Alors, il y a pour l'enfance différentes expériences adverses que l'on peut définir. Tout d'abord, celles en lien avec des problématiques de dysfonctionnement familiaux, par exemple des problèmes de santé mentale chez les parents, des problèmes de conflits conjugaux avec de la violence conjugale, le divorce des parents avec la question éventuelle de l'aliénation parentale, l'abus de substance de certains parents ou également parfois l'emprisonnement d'un parent. Donc ceci fait partie de ce qu'on appelle les expériences adverses de l'enfance en lien avec des dysfonctionnements familiaux. Il y a aussi évidemment toute la sphère des abus, abus psychologiques, abus physiques et abus sexuels, et la sphère de ce qu'on appelle les négligences, négligences émotionnelles ou négligences physiques. Il y a également d'autres traumas, les traumas du registre de la victimisation par exemple à l'école, l'intimidation, le harcèlement, donc la victimisation par les pères. Il y a également l'exposition à la violence dans la communauté, dans le quartier où l'on vit. Bien sûr, toutes les expériences d'isolement, de rejet par les pères. Évidemment, lorsqu'on parle de trauma, on parle également des traumatismes de guerre, des traumatismes des enfants réfugiés, déplacés. On parle également des accidents, des maladies graves, du jeune ou d'un proche et du décès d'un proche. Ce qu'on oublie aussi parfois d'aborder, c'est la question des traumatismes qu'on appelle intergénérationnels, ceux que l'on porte de génération en génération. Des traumatismes que nous n'avons pas vécus directement, qui ont été vécus par un parent, un grand-parent, et qui s'inscrivent au niveau cellulaire, nous en parlerons, au niveau épigénétique. Puis il y a également, et nous n'en parlons pas assez, les traumatismes qui sont induits par les systèmes. Alors, si nous revenons sur ces épisodes d'adversité pendant l'enfance, qui sont beaucoup plus fréquents qu'on ne le pense, plusieurs études nous montrent que lorsque on rapporte un épisode d'expérience adverse pendant l'enfance, la personne aura un risque de 90% d'expérimenter un ou plusieurs autres événements de vie indésirables. Alors, qu'est-ce que le trauma complexe et qu'est-ce que le trauma simple? Le trauma simple, c'est l'exposition une fois à un événement traumatique. Le trauma complexe se définit par la répétition ou l'exposition prolongée à un traumatisme. Des traumatismes qui sont en général de nature relationnelle, qu'on peut appeler également interpersonnel, qui implique souvent une personne en figure d'autorité, un parent, une figure d'attachement. Donc on dit qu'ils sont interpersonnels et ils impliquent souvent la notion d'une trahison parce que justement, ils viennent de quelqu'un en qui l'enfant est supposé avoir confiance et mettre sa confiance. Donc évidemment, ces traumas répétés ou prolongés surviennent à une période du développement de l'enfance où il est très vulnérable, qui va avoir un impact non négligeable et majeur sur son développement, que ce soit son développement affectif, son développement cognitif, ses apprentissages, sa régulation des émotions, sa capacité de gestion au niveau relationnel, etc., etc. Le trauma complexe, évidemment, puisque nous parlons d'une exposition à un traumatisme, aboutit souvent à un diagnostic qu'on appelle le trouble de stress post-traumatique, hein, qui apparaît justement à la suite de l'exposition à un événement traumatique et qui implique des souvenirs récurrents, involontaires, envahissants de l'événement traumatique, les cauchemars, les flashbacks, qui entraînent un évitement, hein, évitement pour justement éviter les souvenirs, les pensées envahissantes, les émotions désagréables, qui implique également une hyperactivation et une hyperréactivité associés à l'événement traumatique, donc des gens qui sont souvent hyper vigilants et un impact plutôt négatif sur l'humeur, sur les cognitions, notamment au niveau de l'attention et de la concentration. Mais lorsque l'on parle de traumatisme complexe, on ne peut pas s'arrêter au diagnostic simple de syndrome de stress post-traumatique. Il existe en effet un effet cumulatif des traumatismes qui sont répétés ou prolongés. Et ainsi, il y a un effet dose, si je puis dire, avec l'accumulation de plusieurs traumatismes ou de l'accumulation sur une période très longue d'un traumatisme qui est répété, qui va entraîner des conséquences graves bien au-delà du syndrome de stress post-traumatique. Les répercussions du traumatisme complexe vont donc bien au-delà du syndrome de stress post-traumatique. On retrouve évidemment la classique dissociation qui est un mécanisme de protection, de défense qu'a la personne lorsqu'elle vit le traumatisme. Cette défense est une forme de séparation mentale de son expérience émotionnelle, sensorielle. La personne se coupe de ses sentiments et de son expérience trop difficile. Le problème de la dissociation péritraumatique est qu'elle va se généraliser dans d'autres situations et avoir tendance à devenir un automatisme dans d'autres circonstances où la personne n'a pas besoin d'être dans ce moment dissociatif. Il y a aussi souvent une difficulté dans la mentalisation. La mentalisation, c'est la possibilité de reconnaître nos propres états internes et de reconnaître les états internes de l'autre. Évidemment, lorsque nous faisons état d'une bonne mentalisation, cela nous aide à accepter, accueillir et donc tolérer, réguler des émotions qui pourraient être douloureuses sans justement s'en couper comme dans le processus dissociatif, sans les éviter comme dans le classique évitement, donc d'accueillir ces émotions. Il y a dans les traumas complexes une limitation dans cette mentalisation du fait de l'expérience émotionnelle extrêmement intense qui a été vécue et qui a entraîné aussi des difficultés dans l'apprentissage de cette mentalisation. Il y a également, chez les personnes présentant un trauma complexe, une tendance à attribuer à l'extérieur et donc au monde une tendance dangereuse d'imprévisibilité. On parle d'attribution et de compréhension du monde. Donc, les personnes ayant des traumas complexes ont une méfiance vis-à-vis d'autrui, une tendance à être dans un mode d'hypervigilance permanente sans être capable de déposer en l'autre la confiance, avec une difficulté également dans cette hypervigilance, et très en lien avec la mentalisation, de se poser pour penser. Il y a donc aussi également dans ce tourbillon permanent d'hypervigilance une grande difficulté à profiter de l'instant et une grande difficulté à ce que certains appellent le lâcher prise, qui est quelque chose d'extrêmement anxiogène chez les personnes ayant un traumatisme complexe. Donc, la perception du monde, pour eux, est vécue comme très dangereuse, très imprévisible, sur lequel on ne peut pas se fier. Il existe également une tendance chez les personnes ayant un traumatisme complexe à avoir de grandes somatisations, des plaintes et troubles somatiques, souvent du registre douloureux. Il faut comprendre que le traumatisme complexe, qui est par définition une exposition répétée ou prolongée à des expériences adverses, négatives, traumatiques, va activer l'axe et le système de réponse au stress avec des taux de cortisol très, très, très élevés qui vont entraîner de fait des conséquences au niveau physiologique, biologique, qui vont entraîner justement ces somatisations. Il existe également chez ces personnes ayant de traumatismes complexes une modalité de survie permanente qui entraîne, comme je l'ai dit, une difficulté de mentaliser, donc de réaliser ces états internes propres, entraînant chez eux une confusion à la fois dans ce qu'ils ressentent ou ce qu'ils devraient ressentir, ce qui entraîne chez eux un grand sentiment d'inadéquation, une faible estime personnelle, un manque de confiance en leur propre perception, mais également dans les perceptions qui leur sont traduites par d'autres, avec beaucoup de méfiance, j'en ai déjà parlé, ce qui implique chez eux également beaucoup de culpabilité dans cette idée de ne pas être capable de percevoir, d'en se sentir très vide, très anesthésié. Il existe chez ces patients également une dynamique comportementale très particulière. Hein. Rappelons-nous que l'enfant est dans une hypervigilance constante, dans une méfiance constante, et que l'enfant nomme souvent son malaise par le corps, par le comportement, parce que mettre des mots est difficile. Donc il va y avoir une recrudescence de symptômes dits extériorisés, l'agressivité, l'opposition, la colère, une tendance à franchir les limites de l'autre, parfois une sexualité compulsive avec des conduites masturbatoires, ostentatoires. Donc, il existe vraiment souvent un sentiment chez ces jeunes d'une hyperactivité qui pourrait mimer un TDAH, mais qui ne l'est pas. À l'inverse, il existe chez d'autres enfants une hyporéactivité dans le sens d'un évitement, et ce sont souvent des enfants qui, contrairement aux autres, passent sous le radar. Ce qui est préoccupant aussi, c'est que chez ces enfants qui ont un traumatisme complexe, considérant cette dynamique d'hypervigilance, il existe un grand impact au niveau de leurs habiletés d'apprentissage. Ce sont des enfants qui sont beaucoup moins flexibles que d'autres, qui évidemment ont rapidement un sentiment d'incompétence, peuvent se frustrer plus rapidement et vont donc avoir une forte réactivité, notamment dans le sens d'une anxiété de performance au niveau des apprentissages. Donc il y a une altération au niveau des processus cognitifs qui sont désormais bien documentés. Évidemment, il y a aussi une difficulté dans la régulation de leurs émotions. Hein, les enfants sont dans une hypervigilance permanente et en fonction des modalités d'attachement qu'ils ont pu avoir avec leurs parents, en fonction de la façon dont ils ont été baignés dans un climat émotionnel ou un autre, la régulation de leurs propres émotions va être extrêmement difficile. En effet, l'attachement chez ces jeunes est souvent du registre insécure, que ce soit ambivalent, évitant ou désorganisé. Donc, rappelons-nous que le trauma complexe est à la fois la répétition, parfois prolongée, d'événements traumatiques qui impliquent le plus souvent une figure d'attachement, un parent, ou en tout cas une figure de soin. Donc il y a une dynamique relationnelle et interpersonnelle dans ces traumatismes complexes et qui implique des répercussions sévères, qui vont bien au-delà du syndrome de stress post-traumatique. Alors, comment aborder ces jeunes et comment dépister ces jeunes? En effet, comme je l'ai précisé dans la capsule 2, souvent, face au comportement, l'adulte va poser une étiquette. Hyperactivité, il est TDAH, opposition, il est trouble, opposition, provocation, etc. Colère, trouble explosif intermittent. Bref, il est évident que si nous nous attachons uniquement au comportement et que si nous ne regardons pas en arrière avec curiosité et grand intérêt ce qui se joue derrière le comportement, alors nous pouvons manquer effectivement la cible. Parce que la cible n'est pas le comportement, mais c'est ce qui va générer en arrière le comportement. Dans le cas, bien évidemment, d'un enfant qui serait opposant, qui serait défiant, qui serait agressif, plutôt que de vivre cette agressivité comme une persécution ou une provocation de la part de l'enfant, il faut se demander si cet enfant n'est pas extrêmement stimulé, envahi, anxieux, et se demander si, tout simplement, également, il a les compétences pour faire face à cet envahissement et à cette saturation émotionnelle, cognitive ou sensorielle. De même, lorsqu'un enfant est dans l'évitement, plutôt que de se dire « c'est un enfant paresseux » ou « c'est un enfant qui ne fait pas d'efforts », demandons-nous si justement il a compris la consigne ou si cette opposition ne marque pas justement un évitement anxieux où l'enfant préfère ne pas s'attaquer à la tâche plutôt que de risquer d'être choué et de venir grignoter un peu plus son estime de lui-même. Alors, il est important effectivement, face à tout comportement, de rechercher chez nos enfants d'éventuels stresseurs qui pourraient favoriser une flambée émotionnelle et donc une flambée comportementale. Si nous trouvons effectivement des stresseurs, que ce soit en famille ou à l'école, il est important de venir les réduire ou de les prévenir. Si le comportement est en lien par rapport à un déficit en termes de compétences, eh bien, il faut apprendre et aider l'enfant à acquérir ses compétences. Et enfin, et évidemment, si le comportement est en lien avec des besoins qui ne sont pas répondus, évidemment, tentons de répondre à ces besoins. La première chose à se rappeler face au trauma complexe, dans sa définition même, c'est que le trauma complexe est vraiment interactionnel ou relationnel. Beaucoup me demandent, mais est-ce que ça se répare ? Des familles d'accueil m'appellent en me demandant, « Docteur Lamy, je ne comprends pas, je lui donne tout l'amour et je lui donne tout ce qu'il n'a pas eu et malgré tout, il continue à manifester de l'agressivité, de l'opposition. » Il est important de comprendre ce principe que ces enfants et adolescents ont été pluri-traumatisés, pluri-trahis par des figures d'attachement et des figures de soins. Ce traumatisme complexe, cette brisure est une brisure relationnelle, est une brisure au niveau de l'attachement. Donc, chaque adulte qui va agir et interagir avec eux à nouveau va être pour lui à la fois une forme d'espoir, mais également une crainte d'être à nouveau trahi, d'être à nouveau malmené, maltraité et d'être à nouveau blessé. Donc l'enfant est dans une ambivalence entre l'envie d'accueillir cet adulte qui semble bienveillant, mais la crainte d'être à nouveau trahi et abandonné. Il est important pour chaque intervenant, professeurs, les familles d'accueil, les médecins, d'avoir vraiment conscience de cette dynamique lorsqu'il interagit avec un enfant. Par exemple, cette grande promesse que certains font de dire « nous ne te laisserons plus jamais tomber ». Combien d'enfants ont changé de famille d'accueil après avoir entendu « tu resteras tout le temps avec nous ». C'est une nouvelle blessure d'attachement, c'est un nouvel abandon, c'est une nouvelle trahison. Donc, il est important en tant que professionnel, même si effectivement, dans une famille d'accueil, nous souhaitons le plus possible accueillir l'enfant dans un climat d'amour et dans un climat de sécurité, mais il est important de ne pas faire des grandes promesses que nous savons parfois intenables. Parce que ce que l'enfant a besoin, effectivement, c'est d'un lien d'attachement sécurisant. Le lien d'attachement sécurisant, quelque part, oui, a à voir avec l'amour, mais l'amour n'est pas suffisant. Avoir un attachement sécurisant, c'est sentir que l'adulte peut être disponible, qu'il peut être disponible physiquement, mentalement, pour rassurer l'enfant, qu'il peut dire à l'enfant qu'en cas de besoin, il peut compter sur lui. C'est également un adulte qui va être réceptif face aux besoins émotionnels de l'enfant. Donc, il y a ce qu'on appelle une forme de sensibilité, à la fois accueillir, montrer que nous sommes dans l'accueil de ce qu'il vit, l'aider également à les exprimer, et avoir conscience effectivement que l'expression de ces émotions est très intensifiée par ce vécu et ce traumatisme complexe. Il est enfin important que l'adulte qui soit sécurisant soit un adulte qui soit dans l'acceptation inconditionnelle de l'enfant. Vraiment, de bien dissocier le comportement de l'enfant avec son identité propre. Il est important pour ces enfants hautement brisés au niveau de leur estime, d'être capable de mettre en avant tout leur potentiel, leurs ressources, leurs qualités, et de les aider à avoir une meilleure estime d'eux-mêmes, ou en tout cas une estime beaucoup plus nuancée chez des enfants qui sont pas mal dans le l'un ou l'autre, à savoir « je suis nul » ou « je suis excellent ». Donc aider ces enfants aussi, en tant qu'adultes sécurisants, à avoir une vision plus juste et nuancée d'eux-mêmes. Enfin, l'idée avec ces enfants, une base sécurisante, c'est aussi être un adulte qui va montrer à l'enfant qu'il peut et qu'il doit demander de l'aide. Il faut valoriser effectivement l'aspect de collaboration, de demande d'aide, de solution et de résolution des difficultés à plusieurs, puisque souvent ce sont des enfants qui ont tendance à se débrouiller par eux-mêmes, donc vont résoudre leurs difficultés, soit justement en rentrant dans le conflit et l'agressivité, ou soit à l'inverse, en se coupant définitivement du malaise. Donc il est vraiment important que l'adulte qui accueille ces enfants avec un traumatisme complexe ait en tête tous ses besoins et ses nécessités. Dans ce sens, et le dernier conseil que je pourrais donner à ces adultes qui interviennent, c'est de bien se souvenir de la spirale dans laquelle l'enfant est coincé. J'ai vécu des traumatismes répétés et prolongés qui m'ont mis dans un état d'hypervigilance, de peur permanente, d'anticipation anxieuse. J'ai appris, pour m'adapter et pour survivre psychiquement, à être dans une modalité très archaïque de lutte, de fuite ou d'anesthésie. De fait, chaque adulte qui va désormais venir en face de moi est potentiellement, tel que je perçois le monde, une menace. Et naturellement, je n'ai pas propension à penser que c'est une personne bienveillante. Donc, il faut comprendre que l'enfant doit être petit à petit apprivoisée dans le sens d'une diminution de ses défenses anxieuses, parce que tant qu'il est dans cette spirale de survie, il ne sera absolument pas disponible pour accueillir cet adulte, aussi bienveillant soit-il, pour apprendre également des outils. Beaucoup de professionnels au centre jeunesse me nomment que l'enfant, quoi qu'on lui répète, et alors qu'il a l'air de comprendre les informations et les outils, ne les retient pas et reproduit en permanence les mêmes, entre guillemets, erreurs. Mais parce que justement, avant de vouloir être dans un apprentissage des outils, il va falloir que l'enfant soit disponible au niveau affectif, au niveau émotionnel, pour diminuer son état d'hypervigilance, afin qu'il soit ensuite disponible au niveau cognitif. Il est vraiment important également de réaliser que pour la plupart des adultes, lorsque des comportements sont extrêmement intenses, rapidement le jugement d'une forme d'anormalité ou d'irrationalité du comportement est mis en avant. Certains parents d'ailleurs ont tendance à dire « mais il réagit de façon complètement disproportionnée, c'est irrationnel, cela n'a pas de sens, il n'y a pas de raison ». Il faut comprendre pour ces enfants dans des traumatismes complexes, ces comportements ont été une modalité de survie psychique, une modalité d'adaptation qui a été tellement répétée qu'elle est devenue un automatisme. Donc si une réaction vous paraît irrationnelle par rapport à un événement donné, dites-vous qu'à un moment donné de la vie de l'enfant, cette réaction-là a fait du sens pour lui et lui a permis de survivre et de s'adapter. Il n'y a donc pas d'irrationalité autant que telle, mais une rationalité qui, à un moment donné, a pu lui servir. J'insiste donc à la fin de l'épisode sur la position des adultes qui prennent en charge ces enfants avec des traumatismes complexes, parce que ces enfants sont extrêmement intenses, sont extrêmement dérégulés au niveau émotionnel, très réactifs, très opposants. Ce sont des comportements qui peuvent venir chercher l'adulte dans ses propres émotions, évidemment, mais également dans son propre historique de traumatisme, ce qu'il a vécu dans l'enfance, ce qu'il a vécu avec ses pères ou ce qu'il peut vivre actuellement. Donc, il y a vraiment une importance énorme de prendre soin de soi en tant qu'adulte et d'avoir et de bénéficier de supervision ou de discussion entre collègues afin de pouvoir également ventiler cette intensité que nous vivons avec les enfants que nous accompagnons. Simplement, ne pas oublier toujours ce qui se joue derrière le comportement et bien comprendre que le comportement est la façon que l'enfant a de nous donner un message. Il est vraiment important aussi de se dire que parfois, puis là c'est valable aussi dans les interventions avec nos enfants, parfois on fait une mauvaise lecture de ce qui se joue derrière le comportement et il y a vraiment une position aussi d'humilité à avoir et de discussion là encore, pour avoir différents points de vue, de discussion avec les collègues sur ce que nous avons compris. Il est important de bien saisir également que les enfants sont dans un envahissement majeur, un sentiment d'inadéquation, d'une faible estime de soi et qu'il faut donc avoir des attentes réalistes par rapport à ces enfants. Parfois, lorsque je peux lire des projets de prise en charge, je trouve que les objectifs sont extrêmement ambitieux et l'enfant va percevoir ça comme quelque chose d'inatteignable qui va venir encore une fois toucher son estime. Donc allons-y avec des objectifs limités, ou en tout cas très réalistes. L'idée est d'aider l'enfant tout d'abord à travailler sur ce que je nommais la mentalisation, c'est-à-dire essayer de ressentir son expérience interne, son état émotionnel. On ne parle encore pas ici de l'analyser ou le verbaliser, mais tout simplement, et je dis simplement, mais c'est extrêmement difficile, d'abord à venir ressentir cette expérience. Puis, petit à petit, après la ressentir, apprendre à la nommer. C'est vraiment les deux étapes préalables à la compréhension ensuite de ce qui a activé ces émotions, ces comportements. Après la compréhension et le fait d'avoir nommé l'émotion, viendra ensuite le fait d'apprendre à l'enfant à être dans la régulation, ce qui est encore un autre une autre étape chez l'enfant. Donc, il va falloir vraiment aller dans quelque chose de très progressif en faisant des sous-objectifs extrêmement réalistes afin que le jeune, petit à petit, puisse expérimenter des moments de ce qu'on appelle des bons coups où il va accumuler des expériences positives et où il va se rendre compte qu'il est possible de ne plus être dans cette spirale d'hypervigilance et de trauma dans des moments où il n'a plus besoin d'être dans cette hypervigilance, ce qu'on pourrait appeler à ce moment-là une capacité du lâcher-prise. Au-delà des émotions, évidemment, l'aspect relationnel sera extrêmement important à travailler pour ces enfants, puisque, comme nous l'avons dit, il y a une perception du monde souvent négative, de méfiance et d'hypervigilance, avec parfois un manque de compétences, notamment dans la façon de communiquer. Ce sont des enfants qui peuvent être très brusques, qui peuvent manquer de filtre, qui peuvent rentrer dans la bulle de l'autre, se montrer très sociables, voire très familiers, parfois même rentrant dans la bulle corporelle de l'autre, avec une attitude parfois de séduction ou de sexualisation. Hein, c'est des enfants qui manquent beaucoup de frontières, qui ont du mal à discerner la place, la limite de l'un et de l'autre. D'autres, évidemment, vont s'essayer, se sont essayés dans des tentatives d'entrer en contact avec l'autre de façon plutôt malhabile et ont accumulé des réactions de tiers plutôt négatives qui est venue grignoter un peu plus leur estime d'eux avec une tendance au repli sur soi et une tendance à l'isolement de plus en plus important. Il est donc important de travailler sur cette dimension relationnelle au travers du jeu. Le jeu et le lieu, notamment le jeu libre, où peuvent se jouer différentes émotions, émotions confortables, inconfortables, différents jeux de domination, soumission, différents jeux de mise en danger et de mise en avant de certaines compétences et parfois de certains défis. Donc le jeu est probablement, selon moi, l'endroit où l'enfant va pouvoir s'essayer à des modalités relationnelles de plus en plus habiles et efficaces. Enfin, et pour terminer, beaucoup questionnent le travail autour du traumatisme. Alors, il est évident que lorsqu'un enfant a vécu ce qu'on appelle un traumatisme simple, c'est un épisode traumatique unique, c'est parfois plus, entre guillemets, facile de le travailler parce qu'il est bien repéré, alors que les traumatismes complexes, par définition, sont une répétition chronique d'épisodes qui ne sont parfois pas très repérés ou même dont l'enfant a souvenir. Donc, ce qu'on appelle l'intégration du traumatisme, c'est-à-dire l'exploration des souvenirs traumatiques, du vécu émotionnel, de ce qui s'est joué, de la présence des uns et des autres, va être beaucoup plus délicate, beaucoup plus complexe et va être tout un processus d'accompagnement long. Mais il est important d'être vigilant à ce qu'on appelle la revictimisation ou la retraumatisation, hein, c'est-à-dire que lorsqu'on parle de traumatisme, souvent on va se précipiter sur le travail du traumatisme alors que ce n'est pas la priorité, en tout cas pour la question des traumatismes complexes. Il y a beaucoup d'autres sphères à venir apaiser en termes d'hypervigilance, de cette spirale de l'hypervigilance, de la réactivité au niveau des émotions. Il y a tant de travail à faire avant de réouvrir l'éventuelle boîte de Pandore qui risquerait justement cette retraumatisation ou cette revictimisation. Donc soyons vigilants à ne pas se précipiter dans le vouloir faire élaborer le jeûne sur le traumatisme. Merci à tous pour votre écoute. J'espère que ce nouvel épisode 2024 a été instructif et intéressant. N'hésitez pas à me suivre sur ma page Facebook Dr Céline Lamy ou ma page Instagram du même nom et me proposer des sujets que vous voudriez que j'aborde dans les épisodes futurs. À bientôt !